fait métaphysique après vous, 19 novembre 83, 4e cours.
Je réponds tout de suite à une question, c'est bien. Vous affirmez que l'ousia est principe selon la forme de ce qui est. Je l'affirme, je l'induis. Hein, comprenez bien, c'est une induction, c'est une découverte. Vous découvrez que. Alors ça implique une affirmation. Vous découvrez, je corrige, hein, j'ai le droit de le faire. Vous découvrez que l'ousia est principe selon la forme de ce qui est. Et que cela revient à dire que l'ousia est source de toutes les déterminations de l'être. Cela signifie-t-il que l'ousia n'a pas de contenu noétique par elle-même? Elle a un super contenu noétique. Mais elle n'a pas un contenu quiditatif au sens très absolu. Très délicat, ça. On va préciser. Cela signifie-t-il que l'ousia n'a pas de contenu noétique par elle-même et qu'elle n'est donc pas intelligible autrement que comme sujet et principe? Elle est intelligible comme principe. Pas comme sujet, puisqu'on dépasse. Mais alors, comment concilier cela avec le rôle de quidité et de toti eneinai rempli par l'ousia? Aristote dit que l'ousia, c'est la quidité première. C'est-à-dire que dans l'ordre du toti eneinai, tout le monde comprend ce que c'est le toti eneinai. Ceux qui ne comprennent pas, lèvent la main. Oh, dès qu'il y en a un qui a le courage de lever la main, immédiatement.
Je comprends quand on est seul.
Alors, essayons de rappeler. Parce que j'ai peur de rappeler tout le temps les choses. Alors, ça risque un peu de radoter, mais je sais qu'en philosophie, on peut tout le temps revenir sur les choses essentielles. On va essayer de comprendre le toti eneinai. C'est très important parce que les prédicaments représentent chacune quelque chose d'intelligible. Alors, le toti eneinai. Mettez les accents. Le toenal au tien, si j'ose dire. N'est-ce pas? Il y a des formules d'Aristote qui sont très curieuses quand il dit to anthropo einam, l'être à l'homme, l'être au tien. Le tien étant pris de façon absolue, il n'y a pas de datif. Hein? Le tien, à n'importe quoi. Tien, qu'est-ce que c'est? C'est ce que la chose est. Était. Ce que la chose demeure. Donc l'intelligibilité profonde. Profonde et propre de la réalité. De cette réalité. Son tienne. Son intelligibilité profonde. Et l'intelligibilité profonde de la réalité qui existe. Voilà son tienne, ce tout tiennénal. Alors, traduit en latin, voyez bien, c'est toujours intéressant de voir les traductions. Et comme ça aboutit à des choses inintelligibles. Alors, on a traduit en latin quoi? Qui errat esse. Traduction littérale. Comme c'est un peu trop long, quod quid erat esse. Le quod esse du quid erat. Ou aucune des rats son existence, son fait d'exister. Aucune des rats. Alors, comme c'est un peu trop long, c'était employé souvent, vous savez, c'est les diminutifs dans une famille, quand les noms sont trop longs. Alors, on fait un petit rassemblement. Et alors, seuls les intimes comprennent. Tony. Tout le monde connaît très bien. Seuls les intimes, bon, les autres ne comprennent pas du tout. Ça ne pas du tout ce que ça veut dire, les autres. Et alors ici, on a fait un petit rapprochement. Alors on a dit quid ditas. Voilà. Quid ditas, on comprend très bien, hein, il y a deux D. C'est pas la peine de répéter deux quid. Alors on dit quid, parce que c'est le second qui l'emporte. Quid, erat, les deux dés qu'on vient de faire, ce qui est resté, n'est-ce pas? Quid, erat, et c'est quiditas. Un petit bobo. On a traduit en français quidité. Mais comme vous êtes loin du toti elenai. Le toti elenai a une signification. C'est Aristote qui a inventé ce mot-là. C'est une des rares inventions d'Aristote. Il a inventé deux mots. Le toti elenai. Et s'il a inventé toti elenai, c'est pour montrer la distance qui existait entre l'ousia et l'aïdos. L'aïdos platonicienne, identifier aïdos et ousia. Aristote veut montrer qu'il y a une distance entre l'ousia et l'aïdos. Il y a une distance. Je ne peux pas identifier l'ousia et aïdos. Aïdos, c'est la forme. Je ne peux pas identifier les deux. Alors, pour montrer qu'il y a une distance entre les deux, on va, en quelque sorte, montrer ce que c'est que l'intelligibilité. On va projeter l'intelligibilité, on va la regarder en elle-même, et pour elle-même. Oui. Alors, on regarde Toti Enenai, qui s'enracine dans l'ousia, et qui s'identifie avec l'aïdos. L'aïdos implique l'intelligibilité. Et d'une certaine manière, l'aïdos est identique à l'intelligibilité. Mais l'aïdos, quand elle est pensée dans l'intelligence, c'est le toti elenai. Quand vous pensez quelque chose, c'est une forme, un concept, toti elenai. C'est le toti elenai pensé, tout simplement. C'est la forme pensée, c'est l'intelligence pensée, c'est le vécu. Oui. Vécu dans l'intelligence. Donc, vous voyez que le toti elenai est bien ce qui va permettre de séparer les deux. Parce qu'on objective l'intelligibilité. Et en objectivant l'intelligibilité, on montre que l'ousia ne peut pas être l'intelligibilité, ne peut pas s'identifier à l'intelligibilité. Autrement, vous seriez obligé de dire être égale intelligibilité. Or, l'intelligibilité est propriété de l'être, mais n'est pas l'être. Si l'être était l'intelligibilité, on revenait toujours à ce que dit Kant, si l'être était l'intelligibilité, nécessairement, sans thaler et sans thaler qui existe, c'est la même chose. L'intelligibilité pensait. On avait montré une fois au bon père Garrigou-Lagrange le plan d'un couvent. Puis quand le couvent a été construit, on lui a dit, on va vous y conduire pour le regarder. Il a dit, ah, c'est pas la peine, j'ai vu le plan. C'est évident. L'être égale l'intelligibilité. Alors à ce moment-là, c'est parfait. L'essence et l'être, c'est identique. Oui. C'est très typique ça, hein. Ça fait tout de suite comprendre que l'intelligibilité, c'est celui, c'est le projet. L'aïdos, c'est le projet de l'artiste. L'architecte a un projet, l'aïdos, il a une idée, c'est son aïdos. Et là, c'est l'intelligibilité qu'il a. Et quand il construira la chose, évidemment, les matériaux sont moins intelligibles, alors ça prend du boss, là où il n'a pas le voulu, mais ça a moins d'importance, ça a moins d'importance. L'intelligibilité, donc, c'est beaucoup plus propre. Hein. L'intelligibilité est beaucoup plus propre, donc je comprends. Le théologien, il va mieux regarder uniquement le projet. C'était beaucoup plus propre que regarder la réalisation. La réalisation, vous voyez, ça implique l'être, l'être existant. Eh bien, l'ousia s'enracine dans l'être. C'est le noyau de ce qui est, comme être. Tandis que le toti elenai s'appuie sur l'ousia. C'est évident. Mais ça peut être aussi bien dans la réalité que dans l'esprit. C'est l'intelligibilité. Alors, comprenons. Les prédicaments ont tous une quidité. Tous, toti elenai, tous. La qualité a une quidité, la quantité a une quidité, la relation a une quidité, ils ont tous une quidité. l'ousia, de manière, un au-delà de la fluidité. C'est vrai. L'ousia est un au-delà de la fluidité. Alors vous allez dire, il n'y a plus aucun contenu noétique. Hein? On va arriver, c'est l'objection. Il n'y a plus aucun contenu noétique. Attention. Le contenu noétique, il est double. Il y a un contenu noétique au niveau quidditatif et un contenu noétique au niveau du jugement d'existence. Quand vous dites « ceci est » ou quand vous dites « ceci », il y a deux contenus noétiques. Ça, je crois que vous pouvez le comprendre. « Ceci est » et « ceci ». Ils ont le même contenu noétique quiditatif, mais ils n'ont pas le même contenu noétique par rapport à la réalité. Donc, dans le jugement d'existence ceci est, il y a un contenu noétique nouveau. Difficile à préciser, très difficile, ça. C'est le dépassement du jugement par rapport à l'aspect quiditatif. Dans l'aspect quiditatif, on est tout à fait à l'aise. On définit, c'est propre. Tandis, dès qu'on touche la réalité existante, on est beaucoup moins à l'aise. Alors, vous comprenez qu'il y a deux contenus noétiques. Un quiditatif et l'autre qui provient du jugement d'existence. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit, vous voyez, je reviens, vous allez tout de suite comprendre, ça va être lumineux, j'espère. Non ? Cela signifie-t-il que l'ousia n'a pas de contenu noétique par elle-même et qu'elle n'est donc intelligible autrement que comme sujet et principe ? Non. Elle a un contenu noétique par elle-même. Mais au niveau du jugement, puisque c'est un principe. Un principe est au-delà de l'aspect quiditatif. Tout principe est saisi dans un jugement. Et dans un jugement philosophique qui implique le jugement d'existence. Qui ne l'explicite pas, mais qui l'implique. Mais alors, comment concilier cela avec le rôle de quiddité et du toti eneinai rempli par l'ousia? C'est très simple. C'est un au-delà. C'est-à-dire qu'il est. L'ousia est éminemment quiddité. Donc toutes les quiddités peuvent provenir d'elle. Parce qu'elle est éminemment. Elle n'est pas en dessous de la quiddité, elle est éminemment quiddité. Et donc, elle peut jouer ce rôle aussi de todeti et de sujet. Bon. Il n'y a pas d'autres questions ? On peut avancer ? Parce que c'est important de bien comprendre ce premier moment de toute la philosophie première, la découverte de l'ousia. Alors, voyez tout de suite, hein, simplement pour rappeler, quand vous regardez les bons manuels d'Itomis, vous verrez que l'ousia, la substance, est définie toujours comme sujet. Vous voyez donc qu'ils n'ont pas dépassé les prédicaments. Ils n'ont pas saisi la métaphysique de l'ousia. Très curieux à faire. J'ai fait l'enquête. Parce que ça m'intéressait de voir à quel moment le thomisme était devenu positiviste. Parce que c'est du positivisme, ça. Vous voyez bien à quel moment. Pas la peine de vous le dire. À partir de Horkheimer. C'est à partir de là que, de fait, l'ousia métaphysique est devenue logique. L'ousia au niveau logique, c'est le sujet. Au niveau métaphysique, c'est le principe. C'est pas la même chose, être sujet et principe. Vous n'avez qu'à comprendre, hein. Quand vous portez 100 kilos sur vos épaules, vous êtes sujet que vous portez. Vous n'êtes pas principe du sac que vous portez. Vous n'êtes que le sujet. Parce que si vous n'êtes pas là, le sac tombe par terre. Alors vous êtes le sujet qui supportait. On supporte des tas de choses dans la vie. Et on n'est pas principe. N'est-ce pas ? Et au moment où vous êtes principe, vous renvoyez, promenez tout ce que vous ne supportez pas. N'est-ce pas ? C'est le propre du principe. Le principe, il est source. Alors que le sujet n'est pas source. Le sujet ne supporte. C'est très curieux ces choses-là. C'est très important. Parce que vous voyez, si vous faites de la substance un sujet, comme au point de vue logique, c'est en identifiant logique et métaphysique, si vous faites de l'ousia un sujet, vous enlevez à Lousia tout son intérêt, c'est d'être source de toutes les déterminations. Le sujet n'est pas source des déterminations, il les reçoit. Alors vous allez me dire, comment la substance peut-elle devenir sujet ? Elle peut devenir sujet parce que, si je regarde la substance dans sa composition, elle assume la matière. Et par la matière, elle devient sujet. Dans sa composition, elle assume la quantité. Et par la quantité, elle devient sujet. Bon. Un autre aspect très important, c'est la découverte de l'être en acte et l'être en puissance. Nous l'avons dit. Et deux grandes orientations de la physique, c'est découvrir l'ousia et découvrir l'acte. Pourquoi cette nouvelle découverte métaphysique ? C'est que l'ousia est principe d'être, mais l'ousia n'est pas l'être. Ça, vous comprenez bien. Et ça, vous comprenez tout de suite. Puisque si l'ousia était être, l'ousia, la substance, n'est pas la qualité, n'est pas la relation. Et donc si vous identifiez ousia et être, vous êtes obligé de dire que la qualité est du non-être. Ce qui ne va pas. Vous êtes obligé de dire que la relation est du non-être. Ce qui ne va pas. Vous voyez ? Donc, on peut être principe de ce qui est selon la détermination, selon la forme. Et quand je dis selon la forme, c'est pour bien montrer que ce n'est pas le principe absolu. L'ousia n'est pas un principe absolu de l'être. Alors autrement, je ne pourrais pas dire que je suis une créature en même temps que j'ai l'ousia. L'ousia ne pourrait pas être créé. L'ousia est un principe selon la forme. Selon les déterminations. Donc, c'est un principe qui implique une certaine analyse. Si ça implique une certaine analyse, ça implique une certaine abstraction. Ce n'est qu'un aspect de l'être. L'ousia dévoile un aspect de l'être. L'ousia dévoile un aspect de l'être, mais ne dévoile pas l'être tout entier. L'être tout entier est beaucoup plus que l'ousia. Mais l'ousia est présent dans l'être tout entier. Il faut jongler un peu, bien saisir que l'ousia est principe selon la forme, mais que l'ousia n'est pas être. N'identifiez pas l'ousia à l'être. C'est Gilson, dans moi, Gilson qui dit que pour Aristote, il y a identification entre ousia et être. C'est profondément erroné. Ceci est vrai de Platon, mais justement Aristote lutte contre Platon. Et c'est pour ça que Gilson dit que la métaphysique d'Aristote est une ousiologie. Bien, la métaphysique d'Aristote n'est pas une ousiologie. La métaphysique de Platon, si métaphysique il y a, la métaphysique de Platon est une ousiologie, mais la métaphysique d'Aristote n'est pas une ousiologie, puisque justement le propre de la métaphysique d'Aristote, le propre de la philosophie première d'Aristote, c'est de montrer la distance qui existe entre l'eidos et l'ousia, et de montrer que l'ousia principe selon la forme de ce qui est, n'est pas identique à l'être. Puisque l'ousia n'est pas identique à l'être, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui reste, les petites miettes, qui sont des roses. Les petites miettes, tout ce qui est en dehors de l'ousia. Ah oui, les miettes, elles sont assez abondantes. De quoi remplir pas mal de choses. La qualité, la quantité, tout ça, c'est des miettes, c'est pas la substance. Alors, est-ce que je peux récupérer tout ça d'une certaine manière ? L'action. Il y a des actions qualitatives. Il y a des actions quantitatives. L'action. représente donc quelque chose qui ne se ramène pas à l'ousia. Quelque chose de propre, qui ne se ramène pas à l'ousia. Et donc, je dois essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Je ne dis pas au-delà de l'ousia, puisque l'ousia est un principe. Et au-delà de quoi je ne peux pas aller. Mais quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre que l'ousia. Alors, y a-t-il un principe dans ce quelque chose d'autre que l'ousia ? C'est un très bon problème. Deuxième manière de le poser, vous savez bien, pour Platon, le bien n'était pas ousia. Pour Platon, le bien est au-delà de l'ousia. Pour Platon, l'un est au-delà de l'ousia. Et il y a encore aujourd'hui des philosophes, pour ne pas le nommer, c'est le père de Philance, qui dit que l'action est surêtre. Qu'est-ce que c'est que le surêtre ? C'est pas le surhomme, hein, mais c'est le surêtre. L'action est surêtre. Alors est-ce que j'ai le droit de dire que l'action est surêtre ? Est-ce que j'ai le droit de dire que le bien est au-dessus de la substance et n'implique pas de substance ? Donc de dire que le bien, puisque substance et être s'identifient, dire que le bien implique quelque chose qui est au-dessus de l'être, un surêtre. Est-ce que j'ai le droit d'employer le langage surêtre ? Et c'est là où se pose ce nouveau problème. Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être ? Puisqu'au fond, quand je parle du surêtre, je parle de ce qu'il y a d'ultime. Je parle de la mousse. Ce qu'il y a d'ultime, ce qui dépasse, hein, la ferveur de l'être. Voilà, la surabondance de l'être. Quelque chose qui ne se ramène pas à l'usine. Alors est-ce que je peux employer ces termes en disant que je regarde ce qui est le dépassement de l'être. Ou est-ce que l'être lui-même implique son dépassement ? C'est la grosse question. Est-ce que l'être lui-même est bon ? Est-ce que l'être lui-même est action ? Est-ce que l'être lui-même implique cette surabondance, cette ferveur ? Mais la question, il faut bien voir la question. Et par rapport à Platon, par rapport au père de Finance, c'est très très net. On dirait aujourd'hui, par rapport à Marcion, c'est exactement la même position. Dieu sans l'être, c'est Dieu amour. Vous voyez ? Alors c'est Dieu sans l'être, c'est Dieu amour. Et donc quand il dit ça, quand Marion dit que Dieu est au-dessus de l'être, il confond être et étant. Il ne voit pas suffisamment que l'être, eh oui, il est amour. L'être, il est bonté. L'être, il est vérité. Et l'être lui-même, sans être quelque chose qui n'est pas l'être. Vous voyez, là, il y a un problème extrêmement important qu'il faut bien souligner, parce que je crois que c'est un problème sur lequel il faut tout le temps revenir, les rapports entre l'être et le bien. Alors c'est là où on découvre toute la grande métaphysique de l'être en acte. L'être en acte, c'est d'essayer de découvrir ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Pas ce qu'il y a de plus profond, mais ce qu'il y a d'ultime, la surabondance de l'être. L'être en acte se distingue de l'être en puissance. Cette division de l'être en acte et l'être en puissance, je la découvre à partir d'une induction. Et Aristote, dans le livre Theta, le grand livre, il y a deux livres d'Aristote très importants, Zeta et Theta. Alors, si vous n'avez pas le temps de tout lire, lisez au moins les deux. Lisez tout en langue vulgaire et les deux en grec. Les autres en langue vulgaire, ça va plus vite. Tandis que ces deux-là, il faut le dire en grec.
Et quand vous n'avez pas le temps, dans le livre Zeta, vous prenez le premier chapitre et le 17e dernier. Vous n'avez pas le temps de tout lire. Ça arrive de temps en temps, tu sais. Vous prenez vite la conclusion. Et ici, c'est tout lire. C'est très difficile de dire, ah, vous pourriez peut-être commencer au chapitre 6. C'est vrai d'une certaine manière, ça dit, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est secondaire. Alors, on va commencer au chapitre 6, c'est vrai, si on n'a pas le temps, on fait état 6. Et état 6, il n'était pas là, là, il faut dire jusqu'à la fin. Bon, alors, de fait, cette découverte de l'être en acte et de l'être en puissance se fait par une induction. Et Aristote dit une induction analogique synthétique. Pourquoi ? Parce que c'est tellement difficile de saisir l'être en acte distinct de l'être en puissance que je suis obligé de partir de plusieurs expériences. Et la première expérience fondamentale sur laquelle Aristote s'appuie, c'est l'expérience que nous faisons tous les jours, celui qui est éveillé et celui qui dort. Tous les soirs, si vous voulez, celui qui est éveillé et celui qui dort. Et le matin, celui qui dort et celui qui est éveillé. Ouais, c'est une expérience que nous faisons tous les jours. C'est cru, hein. Si vous creusez bien cette expérience, vous découvrirez l'être en acte et l'être en puissance. Et comme c'est très difficile, il vaut mieux en prendre plusieurs autres. Celui qui est capable de construire et celui qui construit. Donc celui qui est capable de construire, l'architecte, qui se repose, il est capable de construire, il ne construit pas. Et puis l'architecte, au travail, il construit. Celui qui est capable de voir et qui voit. Vous voyez tous ces exemples qui montrent que la même réalité peut être saisie dans deux états différents. Un état d'imperfection et d'imperfection. Un état en puissance et un état en acte. Deux états distincts. Je peux saisir ces deux états. Or, comme ces deux états se trouvent réalisés au niveau du devenir physique, au niveau de la vie, au niveau de mes opérations vitales, éthiques et artistiques, au niveau de mes coopérations, de ma coopération, je suis obligé de reconnaître que cette distinction entre ces deux états est une distinction qui touche l'être. Parce que si elle ne touchait pas l'être, elle ne serait pas dans ces divers domaines particuliers. Alors, je pourrais dire, je saisis l'être en puissance et l'être en acte comme deux états de l'être. Y a-t-il deux états de l'être ? Non. Il n'y a pas deux états de l'être. Pourquoi ? Parce que l'être en puissance peut très bien ne pas exister actuellement. Or, deux états existent actuellement. Ou successivement. Tandis qu'au contraire, l'être en acte et l'être en puissance n'impliquent pas deux états. Pourquoi ? Parce que l'être en puissance, qui est totalement en puissance, n'existe que par l'être en acte. Donc ce n'est pas deux états. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'ordre radical de ce qui est en puissance par rapport à ce qui est en acte. Et par le fait même, l'être en acte peut très bien ne pas dépendre de l'être en puissance. Et j'ai donc là une distinction qui est beaucoup plus radicale que celle des états. Parce que dans les états, vous voyez, quand je suis éveillé et que je dors, c'est la même personne qui est éveillée qui dort. C'est la même personne. Donc, au point de vue de ma personne, rien n'est changé. C'est deux états différents. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine dessus parce que je dors. Ça va arriver, ça. Ça va arriver. Vous ne pouvez pas dire, mon être est en puissance, j'ai beaucoup de peine de suivre. Votre être est toujours en puissance. Vous n'êtes pas l'acte pur. C'est bien évident, vous n'êtes pas l'acte pur. Donc votre être est toujours en puissance. Il demande toujours à s'activer plus. Et plus vous avancerez, plus votre être s'activera, j'espère. Parce qu'à un moment donné, ce sera la victoire de l'être en puissance. Et quand c'est la victoire de l'être en puissance, ça ne dure plus très longtemps. À moins que ça s'étale. Alors là, c'est autre chose. Parce que l'être en puissance aime de s'étaler quantitativement. N'est-ce pas ? Alors il aime de s'étaler. Là, à ce moment-là, il s'alourdit et ça peut durer longtemps. Enfin, ça s'alourdit. Mais normalement, l'être en acte et l'être en puissance que j'induis à partir des états ne peut pas exister au niveau de l'état. Parce qu'il n'y a pas un état de l'être en puissance. C'est pas un état. C'est pas un état existentiel, quoi. C'est pas un état qui existe séparé de l'autre. C'est d'être totalement dépendant. Une fois que j'ai compris ça, je comprends que l'être en acte, il est fin. Il est fin de ce qui est. C'est la fin. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et alors, sans préciser tout ce qu'on a vu, je peux dire que tout de suite, je peux préciser 5 modèles 2. De l'être en main. Et je dis bien 5 modalités d'être. Et parallèlement, 5 modalités de l'être en puissance. Il faut d'abord déterminer les 5 modalités de l'être en acte. Et à partir de là, les 5 modalités de l'être en puissance. Première modalité. Laisser. Le fait d'être. Le fait d'exister. Seconde modalité, je les énumère ici. Croyez que j'ai fait l'enquête. C'est important. Si vous en avez deux, je vous le dirai. Deuxième modalité, le bien. Troisième modalité, le vrai. Quatrième modalité, l'opération vitale. Cinquième modalité. Réfléchissez bien, vous n'en verrez pas d'autre. Intuitivement, je peux le faire. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est le rayonnement, vous voyez ? C'est le rayonnement de la distinction de l'être en acte et l'être en puissance sur toutes les parties de ma philosophie. Toutes les parties de ma philosophie sont transformées par cette nouvelle lumière de l'être en acte. Vous allez tout de suite comprendre. L'essai vient actuer la substance. Ou plus exactement, l'essai. Le bien vient actuer l'amour. Le vrai vient actuer le jugement. Intelligent. L'opération vitale vient actuer les facultés. Le devenir vient actuer le mouvement, vient actuer le corps. Donc, 5 modalités d'acte et 5 modalités de puissance. Ça me semble très important, vous voyez. C'est une des choses qui n'a pas été non plus assez développée dans la ligne du thomisme habituel. Pourquoi ? C'est très simple à comprendre. C'est que, de fait, quand vous regardez dans les bons manuels thomistes, et que vous regardez l'être en acte et l'être en puissance, ordinairement, il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est trop dur. Pas grand-chose. Alors, vous vous rabattez sur la thèse thomiste. Dans toute réalité créée, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Vous oubliez la métaphysique de l'être en acte et en puissance et vous vous rabattez là-dessus. Ce qui fait dire à quelqu'un comme Gilson, c'est intéressant pour vous de voir la manière dont un Gilson comprend Saint Thomas et Thomisme, ça vous aide, ça, c'est une bout de sauvetage, on ne passe pas face à remorque. Alors Gilson dit ouvertement que la métaphysique de Saint Thomas, à la différence de la métaphysique d'Aristote, c'est la métaphysique de l'essai, alors que la métaphysique d'Aristote, c'est la métaphysique de l'ousia. C'est l'ousiologie. Donc, il y a une différence radicale entre la métaphysique d'Aristote et celle de Saint Thomas. Alors, vous comprenez ? Ça, c'est très délicat. Saint Thomas nous dit qu'il y a une nouvelle science. Dans la mesure où on découvre un nouveau principe propre. Si vous ne découvrez pas un nouveau principe philosophique dans Saint Thomas qui n'est pas dans Aristote, vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a une nouvelle science métaphysique. Il y a une nouvelle science à partir d'un nouveau principe. Or, cherchez bien, vous ne trouverez dans Saint Thomas aucun nouveau principe métaphysique, qui n'est pas dans Aristote. Cette petite enquête à faire, c'est pas très rapide, puisqu'il faut lire tout Saint Thomas, alors évidemment ça demande un petit peu de temps, mais au fond c'est facile à faire. Un jeune étudiant qui aime Saint Thomas, il s'y met, et alors il lit tout Saint Thomas dans cette œuvre, tout le temps Aristote là derrière, aucun principe du monde. Gilson, du reste, quand il dit que c'est une nouvelle métaphysique, n'a jamais dit qu'elle était le principe du mot. Quand on l'interrogeait là-dessus, il vous rend. On dit, oh, il n'a pas comprendre. Il n'a pas comprendre. Oui, mais métaphysique de l'essai. Est-ce que la métaphysique de Saint Thomas est la métaphysique de l'essai? Eh bien, je dirais non. La métaphysique de Saint Thomas n'est pas la métaphysique de l'essai. Pourquoi? Parce que pour Saint Thomas, l'essai, c'est actus essens. Saint Thomas le dit souvent. L'essai, actus essens. Donc, il définit l'essai par l'acte. Par l'acte essens d'être. Donc, c'est bien une modalité de l'acte. Actus essendi. C'est pour ça que je vais laisser au niveau de la substance. Vous voyez ? Si Saint Thomas avait une nouvelle métaphysique de l'essai distincte de la métaphysique de l'acte, quand Saint Thomas serait en présence de l'acte, il dirait l'acte, c'est un essai. Vous comprenez ? C'est l'essai. Il ne dit jamais ça. Il dit l'essai. À tous ces samedis. Bien, il faudrait dire que Saint Thomas n'a aucune logique. Ce qui n'est pas vrai, ça. Saint Thomas a une logique. Et quand Saint Thomas dit que l'essai à tous ces samedis, donc l'essai, l'exister, traduisez l'essai, l'exister, l'être, on va l'intervenir, c'est l'acte d'être. L'acte d'être. De sorte qu'il faut être attentif à ça. On ne peut pas dire que Saint Thomas a une nouvelle métaphysique de cet Aristote parce qu'il n'y a pas de nouveau principe. Mais je crois que Saint Thomas utilise la métaphysique d'Aristote d'une manière tout à fait particulière. Parce qu'il utilise la métaphysique d'Aristote en théologien. Et si Saint Thomas utilise la métaphysique d'Aristote en théologien, il lui donne quelque chose de tout à fait nouveau. Et je crois qu'en effet, il y a des explicitations dans Saint Thomas qui ne sont pas dans Aristote. Ça, c'est sûr. Entre autres, toute la question de l'essai, c'est sûr. Mais c'est une conclusion pour Saint Thomas. Ce n'est pas un principe, l'essai. Je peux parler de l'essai participer. Quand je parle de l'essai participer, c'est une conclusion. Je n'ai pas l'expérience de l'essai participer. Ce serait trop commode. Si vous aviez l'expérience de laisser participer et comme laisser participer, vous auriez l'expérience immédiate de Dieu. Vous verriez Dieu.
ça que Sainte-Catherine dit que si on avait l'expérience et la vision de la grâce, on aurait la vision de la Sainte Trinité. Puisque la grâce est une participation formelle à tout. Alors si vous aviez l'expérience de laisser participer, vous auriez la quasi-expérience de Dieu. Or, laisser participer, vous posez laisser participer comme un jugement d'existence. Je veux dire comme un jugement de sagesse. Un jugement de sagesse. Parce que Dieu est saint, tout ce qui n'est pas Dieu est composé. Et tout ce qui n'est pas Dieu participe son essai. C'est en ce sens qu'il est composé. Alors, l'essai vient actuer l'essence. C'est-à-dire la substance prise comme essence. La substance prise comme essence. La substance seconde. C'est au niveau de la subsistance, au niveau de la substance existe, mais la substance existe dans son contenu d'essence. C'est ça qu'il faut comprendre comment la substance subsiste. Le bien, selon l'ordre. Vous voyez, donc là, je suis au niveau philosophie première. Ici, je suis au niveau éthique. Ici, je suis au niveau critique. Ici, je suis au niveau opération d'État, philosophie de l'art. Ici, physique. Et toutes les parties de la philosophie sont rassemblées. Cependant, je peux dire que toutes les parties de la philosophie, il en manque quelques-unes. Qu'est-ce qui manque? Il manque le facere. La philosophie du facere. Or, la philosophie du facere, qu'est-ce qu'il y a de plus actuel dans la philosophie du facere? C'est l'idée. L'idée-là. Il perd. Alors, est-ce un oubli de la part de Saint-Thomas? Un oubli ici, je vais tout simplement ajouter le beau. À côté du bien, je vais ajouter le beau. Puis il y a encore quelque chose que j'ai oublié, la politique. Ça, c'est très bien. Alors, je dis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout est parti de la philosophie. Ils sont 7. Alors, c'est intéressant à voir pourquoi la philosophie. Pourquoi la distinction de l'être en acte et l'être en puissance n'a pas d'influence immédiate dans la philosophie de l'art et dans la politique? Très curieux.
Des choses très étonnantes.
Posez-vous la question. J'espère que vous aurez résolu en 15 jours.
C'est intéressant.